Alors, changement climatique, l'or blanc, ça a l'air d'être un peu la fin pour la moyenne montagne. Qu'en est-il au sein du PNR Vercors des stations de ski de moyenne montagne, romand de pente, tout ça, toute une époque qui est aussi la mienne, hein, parce que moi j'ai fait sport études à Bourg-d'Oisans, donc le ski c'est important. Donc qu'en est-il dans le Vercors des sports liés à l'or blanc et des aménagements, des infrastructures qui allaient avec?
Juste deux mots pour dire qu'il y a sur ce sujet-là des positions qui ne sont pas toujours très convergentes. Christian Morin était également conseiller départemental, président de l'EPIC des stations, donc il pourra au moins peut-être vous exposer ce qu'il en est s'agissant de la Drôme.
Oui, merci, c'est une bonne question. Je ne peux pas vous exposer ici toute la stratégie des stations de la Drôme. Alors là, je vous parle du côté station de la Drôme. Pour nous, c'est Col de Rousset, le Chauclapet-Fondurle, et Luce-la-Croix-Haute, voilà, pour les stations de ski du Vercors, Drôme. Je ne vous parlerai pas du côté Isère, qui donne encore... C'est un autre sujet, un autre système d'organisation, puisque pour les stations de la Drôme, c'est le département qui est, avec l'EPIC, qui est le gestionnaire de tous les équipements techniques de ces stations. Alors, bien sûr que le changement de climat, on l'a pris en compte. Hein, on a travaillé avec tous les socioprofessionnels depuis 4 ans à rediscuter, à voir ce qui était possible. Notre objectif aujourd'hui, c'est de ne pas proposer que des activités liées à la neige, mais c'est de partir dans la transition, bien sûr, la transition climatique et le fait que le nombre de jours de neige va se réduire de plus en plus, et de pouvoir proposer aussi dans nos stations d'autres activités, celles qu'on décline maintenant déjà en été sur ces stations, avec des équipements qui sont installés. On a des nouveaux équipements qui ont commencé cet été sur du tubing au col de Rousset, un acroparc plutôt, un filet sur Fondurle. L'objectif, c'est d'attirer un peu des visiteurs, mais en les orientant aussi beaucoup sur tout ce qui concerne la randonnée, le plaisir plus de contemplation et d'observation. On le mène un peu en parallèle avec ce qui se fait dans la Drôme avec le projet des sublimes routes du Vercors. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est encore un sujet sur lequel on pourrait beaucoup développé, dont l'objectif, c'est d'intéresser le touriste, de l'orienter vers un tourisme plus riche, à lui permettre de découvrir les sites, découvrir ce qu'il y a, l'histoire qu'il y a eu dans ces sites, que ce soit l'histoire même de la géologie, comme l'histoire des hommes qui ont traversé ces sites. Bien sûr, on parle de la résistance également, mais faire orienter des découvertes beaucoup plus larges et beaucoup plus riches à tous nos visiteurs. Donc on est vraiment déjà dans la transition et avoir pris en compte l'évolution climatique, sachant que d'après les études, on a encore une trentaine d'années devant nous avant qu'il n'y ait plus de neige.
Merci. On va peut-être juste demander un petit mot de la fin, parce que malheureusement, il est l'heure pour la suite de la journée. Je vous remercie.
Je ne sais pas s'il y avait peut-être une question encore, ce serait la dernière.
Bonjour, donc Lionel Mazet, Pays d'art et d'histoire du Pays Voironnais. Donc, bon, au niveau des objectifs, les PH sont visiblement assez voisins, assez cousins des objectifs des PNR. Il se trouve que nous, on a sur notre territoire de grosses difficultés à lutter contre le mitage des zones pavillonnaires. Et en termes d'urbanisme et de choix architecturaux, disons qu'on se retrouve avec essentiellement des maisons à toit plat, toutes pareilles, quel que soit le territoire, quels que soient les bâtiments autour. On a vu qu'il y avait des gros enjeux en matière de conservation des paysages et justement pour éviter ce genre de choses. Comment ça s'articule? Comment s'articule la charte du PNR avec les PLU ou les autres documents d'urbanisme? Comment ça fonctionne pour que ce genre d'exigence soit intégrée et gérable et applicable par les communes?
Oui, je veux bien prendre cette question aussi, puisque on est en pleine révision de notre PLU ici à Saint-Jean-Royant. Déjà pour vous expliquer que ce PLU, avant d'arriver à terme, a été soumis à l'approbation de nombreux organismes, dont bien sûr le PNR, qui a vérifié que les options qu'on avait dans notre PLU correspondaient à la charte du parc. Donc en plus, la charte était en mouvement. On a revu deux, trois petites choses aussi de ce côté-là. Mais globalement, pour terminer un PLU, une révision de PLU, donc ça concerne aussi tous les projets architecturaux qu'on peut avoir, On est quand même dans une restriction assez, assez forte hein, qui nous est imposée par, par la DDT, par tous les organismes qui nous contrôlent, hein, qui nous conseillent soi-disant, mais qui nous dirigent véritablement dans les directions qu'ils veulent. Mais sur la partie paysagère, on n'a pas beaucoup de freins, sinon ceux que l'on peut mettre, hein, nous aussi dans les PLU, à avoir des hauteurs de construction à la limiter, de faire des, différentes zones et d'aménager pour chacune des zones des petites particularités dans le souci d'avoir une certaine homogénéité paysagère. On le prend en compte ça, dans les révisions de PLU telles qu'on les a faites. J'espère qu'on a un grand projet au niveau de la communauté de communes, c'est de faire d'un PLUIH hein, dans les années qui viennent, donc pour disons, agrémenter chacun des PLU existants et les orienter vers, vers quelque chose d'un peu plus homogène, justement pour qu'on ait un paysage, qu'on ait un, quelque chose qui soit agréable aussi, qui ne fasse pas tout et n'importe quoi, hein, ce à quoi vous faites allusion.
Je veux juste compléter, dire qu'il y a effectivement un rapport de compatibilité. Hein, les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte de parc. On est dans des territoires qui ne sont pas couverts par des SCOT. Et c'était un peu compliqué d'imaginer qu'il y ait la charte de parc, le SCOT, les documents d'urbanisme. Donc ce qui avait plus ou moins été négocié, alors dans le, voilà, c'est une forme un peu hybride, avec les services de l'État, c'est qu'on ait donc d'une part une charte avec un plan de parc zoomé spécifiquement sur les territoires non couverts par des SCOT, donc le Royan-Vercors et les Quatre Montagnes, la partie iséroise du massif, et qu'en contrepartie, il y ait également, comme Christian Morin le rappelait, l'élaboration d'un PLUIH à l'échelle de chacune de ces deux intercommunalités. Donc on est en train d'engager la démarche pour justement rendre effectif ce, ce prochain PLUI.
Juste un petit complément avant de finir, vraiment. C'est qu'en fait, votre question, elle renvoie aussi à la relation qu'on peut avoir avec, avec les deux CAUE. Ça a l'air de rien, mais il y a quand même de nombreuses communes qui sont demandeuses de, ces, de cette ingénierie. Donc moi, je renvoie aussi à la capacité du territoire à offrir, du territoire des institutions à offrir de l'ingénierie au plus près de, au plus près du besoin. Et ces besoins, ils sont autant sur des petits projets d'espace public que sur des grands projets de réhabilitation de friches.
Merci. Bon, je en vous remerciant, et puis donc ce sera le mot de la fin, effectivement, et on voit bien que les sujets sont encore nombreux.